Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Patrick Flandrin. Patrick, tu es ancien président de l'Académie des sciences. Tu es physicien, informaticien, et tu es aussi le délégué pour...
l'information scientifique et la communication.
Voilà. Aujourd'hui, je te propose que nous parlions de Hypatie, très connue dans le monde scientifique, mais pas très connue dans le grand public, on peut le dire. C'est une personnalité étonnante. On raconte que c'est la première femme scientifique dont l'existence est attestée. Alors, on va voir ce qu'il en est. Il y a eu beaucoup de mythes et d'inventions autour de sa personnalité. Pour commencer, Patrick, qu'est-ce qu'on sait sur elle avec certitude ?
Elle a une vie qui est assez mystérieuse parce qu'elle est attestée par quelques documents dont la fiabilité n'est pas forcément avérée, et puis beaucoup de documents qui ont disparu, il y a des documents mythiques qui auraient existé mais dont on a perdu la trace. Par contre, ce qu'il est certain, c'est qu'elle a terminé sa vie d'une manière absolument épouvantable, puisqu'elle a été assassinée, démembrée, brûlée, et ça, c'est attesté que c'est en 415.
Je dirais même dénudée.
Aussi. Et il y a beaucoup de représentations, de tableaux qui ont mis en scène de manière extrêmement...
Dénudée,
cette situation-là tragique. Sa naissance fait l'objet d'un certain nombre de spéculations, et il y a même des probabilistes qui se sont intéressés à établir une date de naissance sur une stratégie bayésienne, comme on dit, en tenant compte des informations partielles, la confiance qu'on peut leur accorder. Et si on croise tout cela, ça amène à une naissance qui est autour de 355, 360.
J'ai vu ça, et si tu veux mon opinion, j'y crois pas à ces trucs probabilistes.
Voilà, mais c'est intéressant quand même de le noter, parce que c'est un cas d'étude de comment est-ce que l'on peut, sur la base de documents qui sont fragmentaires, auxquels on accorde plus ou moins de confiance, les combiner de telle sorte qu'on essaie d'affiner et ne pas se basé sur un seul document. C'est une figure très particulière parce que maintenant on la voit comme effectivement une mathématicienne, une astronome et une philosophe. Alors en fait c'était la chef de file de ce qu'on appelait l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, qui était un endroit extrêmement important où elle était très reconnue. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait des documents que l'on a, il apparaît que c'était certainement une érudite, et c'était quelqu'un qui était extrêmement importante pour la diffusion de la science, de l'astronomie et des mathématiques. C'est moins évident qu'elle était elle-même contributrice en tant que telle. C'était davantage une commentatrice, et elle était célèbre pour son enseignement, pour lequel les gens se pressaient. D'ailleurs, moi, j'ai trouvé dans un vieux livre qui parle des femmes de science, en disant qu'il suffisait d'écrire à la grande philosophe à Alexandrie, et ça arrivait dans sa boîte aux lettres, d'une certaine façon, sans préciser davantage. Donc, elle était très connue, mais elle était connue pour cet aspect d'enseignement et de transmission.
Juste un mot, tu as dit qu'elle était en même temps mathématicienne, philosophe, astronome, etc. Je ne suis pas sûr que nos auditeurs savent que à cette époque de l'histoire, toutes ces choses étaient tellement mélangées que on ne distinguait pas un astronome d'un mathématicien, par exemple.
Exactement. Et d'ailleurs, même, l'astronomie avait des frontières avec l'astrologie qui n'étaient pas forcément, étanches. Peut-être c'est important de dire qu'elle était fille elle-même d'un mathématicien, qui était Théon d'Alexandrie. Et d'une certaine façon, les renseignements qu'on a sur elle, ils sont d'une part liés à son ascendance par Théon d'Alexandrie, parce qu'elle a collaboré à des commentaires que Théon écrivait lui-même. Et ça, on en a des traces où il raconte, par exemple, pour les traités de Ptolémée ou autres, où elle a fait d'importantes contributions, il les mentionne explicitement que ça a été écrit avec sa fille.
Juste aussi pour se replacer un peu dans l'histoire, donc on est au 4e siècle de notre ère. Les grands textes de l'époque sont, disons, bien sûr, il y a Platon, mais 400 ans avant Jésus-Christ, et puis il y a aussi Euclide, disons, 2 siècles avant Jésus-Christ. Mais par contre, les textes étaient plus chauds de son époque. C'est peut-être le traité d'arithmétique de Diophante qui était plus récent.
Plus récent, voilà. Moi, je ne veux pas dire de bêtises, je crois que c'est le 2e siècle. Les 3 textes sur lesquels il semble avéré qu'elle a fait des commentaires, effectivement, il y a l'arithmétique de Diophante, il y a le traité des sections coniques d'Apollonius, et il y a l'Almageste de Ptolémée, qui était la plus grande description, on va dire, de système astronomique de l'époque. Donc là, elle apparaît comme étant une experte de ces domaines, et elle enseigne de manière très générale. Alors là aussi, l'enseignement était un peu... Je ne suis absolument pas un spécialiste de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie, mais ce que je sais, c'est qu'il y a 2 aspects et 2 étages dans cet enseignement. C'est-à-dire qu'il y avait un enseignement qui était ouvert, puis il y avait un enseignement qui était plus fermé, c'est-à-dire qui était un enseignement un petit peu d'initiation.
Peut-être payant d'ailleurs.
Peut-être, ça c'est pas les mots que j'ai, mais ce que je veux dire c'est que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a pu à un certain moment lui faire des procès qui ont pu aller jusqu'à son exécution à la fin, puisque en s'intéressant à ces questions scientifiques, comme tu le soulignais, souvent les frontières étaient floues entre ce qu'était vraiment la science et ce que pouvait être la magie ou ce que pouvaient être des pratiques plus obscures. Et le fait qu'il y ait une part de l'enseignement qui se passe aussi dans des cercles plus restreints, dans des comités plus secrets où la porte est fermée, eh bien faisait qu'on pouvait ouvrir à des suspicions et autres. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, dans cette école à Alexandrie, quand elle était une des plus importantes figures, elle professait une attitude d'ouverture et de tolérance par rapport à des croyances de l'époque. Et il y avait des combats qui se passaient à ce moment-là, et en particulier avec le christianisme qui s'installait.
À l'époque, on parlait grec.
Oui.
Donc c'était bien sûr romain,
oui.
Mais on parlait grec.
Mais on parlait grec. Et d'ailleurs, on dit qu'elle est allée faire un séjour aussi à Athènes et qu'elle en serait revenue, mais bon, ça, c'est pas vraiment attesté. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait des luttes de pouvoir, comme il y en a toujours, et beaucoup de luttes de pouvoir qui se mettaient sur un fond aussi religieux. Et par exemple, il y avait une lutte de pouvoir entre Oreste, qui était le préfet à Alexandrie, et puis Cyril, qui était l'évêque. Et Hypatie, elle professait quelque chose qui était très, très ouvert. Elle n'est pas chrétienne par elle-même, mais en même temps, elle n'était pas opposée au principe de discuter. Et elle était conseillère d'Oreste, qui avait une version plus modérée, on va dire, du christianisme. Et l'histoire dit, est-ce que c'est vrai, que c'est effectivement sur le conflit de pouvoir qu'il y avait entre le préfet et l'évêque que s'est cristallisée la haine qu'on lui a adressée, et que ça serait Cyril, l'évêque, qui aurait ordonné d'une certaine façon la condamnation et l'exécution.
Ça serait un peu dégât collatéral d'une lutte politique religieuse, mais probablement sans lien avec la science.
Sans lien avec la science, le seul lien, c'est qu'on aurait pu attiser cette haine justement par le fait que, par une forme de populisme, on dise, voilà, c'est une sorcière. Mais sinon, non, il n'y avait pas de lien direct avec la science, de la même façon qu'il n'y avait pas de lien direct avec l'autre aspect qui est très important, le fait que ça soit une femme. Et une femme scientifique était un peu une exception, mais ça n'a jamais été évoqué comme étant la raison de sa disgrâce ou de son exécution.
Donc, on a rien ou presque décrit.
Non, on n'a rien ou presque décrit. On a des écrits indirects et on a des traces qui sont justement les traces comme dans les écrits d'autres personnes, parce que finalement, il y a les écrits, les traces que l'on a. Donc je disais, elle est fille d'un mathématicien, Théon, et elle a eu beaucoup de disciples indirects par son enseignement, mais elle en a eu un dont elle était plus proche, qui s'appelait Synésius, qui lui a laissé un certain nombre de lettres qu'il avait adressées à Hypatie et de témoignages qui rendent compte justement un petit peu de l'interaction qu'il avait, par exemple, sur ce qu'elle faisait, aussi sur une composante d'instrumentation, parce qu'on lui prête aussi le fait d'avoir été, sans en être l'inventrice, en tout cas quelqu'un qui s'est intéressé à l'instrumentation scientifique.
Donc voilà ce qu'on sait. J'aimerais que tu me parles de ce qu'elle est devenue, quelle image on a projeté sur elle.
Alors on a projeté beaucoup d'images sur elle. Alors la première des choses qu'on peut faire, je vais faire juste un petit parallèle, qui a certainement été évoqué à cette antenne, ou en tout cas dans d'autres documents, c'est qu'il y a une photo très célèbre de 1927, du congrès Solvay, où on voit une assemblée de ce qui est le summum de la physique de cette époque du début du XXe siècle. Et ce qui frappe et qui a été montré, dit à multiples reprises, c'est que dans cette assemblée un petit peu austère, il y a une seule femme, c'est Marie Curie.
Au centre.
Au centre, mais il n'y en a qu'une seule. Et de la même façon, si on s'intéresse à l'école d'Athènes, qui est à la source de l'école d'Alexandrie qu'elle représente en Égypte, eh bien, il y a un tableau célèbre de Raphaël, de 1530 quelque chose, qui est au Vatican, où on voit... Alors c'est une assemblée qui n'est évidemment pas une assemblée synchrone, puisqu'on voit aussi bien Platon, Aristote, Ptolémée. Mais on voit tous les gens qui ont été représentatifs de cette école de pensée, et parmi eux, il y a une seule femme, et c'est supposé être Hypatie. Mais c'est un... c'est supposé être Hypatie, parce que ce n'est pas une photo, et on n'a pas de portrait avéré. Bien qu'on ait dit, tous les témoignages concordent, que c'était une femme d'une extrême beauté, qui était fortement désirée par tous les hommes et qu'elle calmait avec de la musique lorsqu'ils étaient trop empressés. Et on ne lui a pas connu du tout de mari ni de descendance, ni du tout, semble-t-il, qu'elle a passé une vie solitaire.
Tu parles de Raphaël. Est-ce que tu penses que déjà à l'époque de Raphaël, l'idée qu'il y ait une femme parmi les scientifiques hommes était quelque chose de notable pour Raphaël ou bien c'était quelque chose d'un peu normal ?
Là aussi, c'est une question d'interprétation. Parce que maintenant, on dit, cette femme qui est là, vraisemblablement, c'est Hypatie. Mais Raphaël n'a pas écrit sur son tableau, il n'a pas écrit ce qu'on trouve sur des descriptions. D'ailleurs, si on va sur la page Wikipédia de l'école d'Athènes de Raphaël, je ne crois pas que sont identifiées un certain nombre de personnes, je ne crois pas que soit identifiée Hypatie. On le trouve dans d'autres ouvrages qui parlent d'Hypatie, qui ressortent ce tableau et qui disent, voilà, sans doute que c'est elle. Mais je pense qu'il ne faut pas lui en faire dire plus que...
C'est le tableau célèbre où on voit Platon qui met les mains vers le ciel et Aristote les mains vers la terre. C'est ça. Voilà, c'est un tableau magnifique. Et on voit d'ailleurs Euclide aussi.
Oui, il y a Euclide aussi. Ouais, c'est pour ça. C'est vraiment un aréopage de tout ce que le platonisme et la suite avaient pu produire de meilleur. Et c'est intéressant de voir sa place. Dans sa postérité, il y a eu une période d'ignorance par rapport à Hypatie, il y a eu une période où elle est apparue de manière un peu marginale parce qu'elle est mentionnée dans certains écrits au fil du temps, mais elle a eu une sorte de double renaissance. Il y en a eu une au 19e parce qu'elle s'est trouvée devenir l'héroïne d'un certain nombre de romans, en particulier d'anglais.
Pièce de théâtre aussi, je crois.
Pièce de théâtre. Et puis au 20e siècle, ça s'est un peu accéléré et disons qu'elle est devenue une forme de ce qu'on appelle un rôle modèle et elle a été un symbole féministe qui a été beaucoup utilisé et on a donné son nom
qui
à beaucoup
de structures.
Qui l'est toujours, oui, tout à fait. Et on donne son nom à un certain nombre de structures, de laboratoires, d'opérations, de prix, etc. qui quelque part resymbolisent la place des femmes dans la science.
Compris un film grand public,
Agora,
un film, un blockbuster, on peut peut-être, qui est tout à fait étonnant, puisqu'on lui prête de tas d'inventions qui, pour le coup, sont totalement imaginées.
Voilà, donc là, non, Agora, je pense que c'est pas sur ce film-là qu'il faut se baser pour penser, cerner historiquement de manière correcte et exacte. Non, c'est une façon vraiment d'imaginer une mathématicienne de cette époque, mais c'est totalement, enfin pas totalement, mais c'est grandement romancé, inventé, et ça n'a pas de prétention d'être exact.
Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que de faire des films grand public largement romancés dans le but de convaincre les gens que... Il y a fort longtemps, il y avait des gens qui s'intéressaient à la science.
Oui, oui, non, mais moi, je pense qu'il faut négliger aucun moyen. Et ça serait dommage, d'ailleurs, même de se priver de mettre de la fiction. Je pense que le personnage lui-même d'Hypatie, il y a tellement d'aspects qu'on ne connaît pas que les inventer dans la mesure... Bon, il ne s'agit pas de lui prêter non plus des propos qui seraient des propos, anti-scientifiques ou je ne sais pas.
Je n'ai pas vu le film, mais si je me souviens bien, on lui attribue l'invention de la découverte des lois de Kepler.
Voilà, c'est ça, des trajectoires elliptiques. Des planètes. Je ne sais pas ce qu'elle enseignait vraiment dans le système de Ptolémée, mais elle n'était pas là. Donc ça paraît très étonnant quand même. Donc ce genre de choses, voilà, c'est une façon de dire qu'il pourrait y avoir une sorte d'invention qui n'a pas été... qu'on a injustement oublié, qui est invisibilisée ou autre.
qu'Hypatie peut aujourd'hui, au XXIe siècle, servir vraiment de rôle modèle?
Oui et non. Enfin, c'est comme pour beaucoup de rôle modèle. Je crois que les rôles modèles, il y a un très bon côté. Évidemment, c'est qu'on met en avant des femmes extraordinaires. Il y a un côté indirectement qui peut être contre-productif parce qu'elles mettent trop en avant des femmes tellement extraordinaires qu'elles ont des trajectoires non reproductibles. On se dit, est-ce que ça me concerne vraiment? Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans la trajectoire d'Hypatie, d'une certaine façon, de tout ce que j'ai lu et de tout ce que j'ai vu, au moment où elle était vraiment au sommet de l'école d'Alexandrie, etc., il semblait que la question du genre n'était pas au centre du problème. C'est-à-dire le fait que ça soit une femme n'était ni un plus ni un moins. Il semble pas qu'elle ait eu un problème de plafond de verre à l'époque.
C'est nous qui l'avons amenée.
Et nous l'avons amenée. Donc ça, c'est quand même une question qu'on peut se poser. À quel moment est-ce qu'on s'est mis à mettre ce genre de barrière qui semble ne pas être vraiment existant? Mais en même temps, il ne faut pas se leurrer. Elle était une exception aussi d'avoir une trajectoire de mathématicienne, d'astronome et de scientifique à cette époque. Ce n'était pas une situation banale non plus.
Merci Patrick. J'aime beaucoup cette analogie entre le congrès Solvay 1927 et le tableau de Raphaël, une espèce de congrès virtuel qui, au lieu de se passer sur plusieurs endroits, se passe plusieurs siècles. Beaucoup de siècles d'ailleurs.
Oui, beaucoup, 5 ou 6.
Merci beaucoup Patrick.
Merci Étienne.
La musique que vous avez entendue est extraite, bien sûr, du film Agora de 2009 de Alejandro Amenábar, qui est une biographie, disons, imaginaire de Hypatie, et qui a eu un certain succès. La musique originale du film est de Dario Marianelli.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.